Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le bateau de l'After. La croisière des 20 ans se poursuit en ce mercredi 25 mars. On est en public, applaudissements s'il vous plaît. Bon, on va être honnête pour l'instant, ils sont au resto tous, en bas là. Ils vont arriver, merci aux 5-6 fidèles qui ont bazardé le dessert pour être avec nous sur RMC et dans Génération.
On est sur une ambiance Roland-Garros. Hein. Ouais.
Roland-Garros ou à midi 30, voilà, tout le monde est encore au village.
Exactement.
C'est avant la night session, pas du tout, c'est avant la night.
Tout le monde est en loge.
Il y a changement.
Tout le monde est au buffet.
Walid Achachour est là ce soir, salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Jimmy Brown est là ce soir, salut Jimmy.
Salut Nico, bonsoir tout le monde.
Kevin Diaz, KD qui a fait une énorme émission hier, hein, faut le dire. Hein.
Très très grosse.
À contre-courant de tout le monde.
Exactement.
Sur la scène, hein, tu sais le mec il a navigué à contre-courant.
Ah il a coulé.
Ouais. Il était solide. Salut Kevin.
Salut à tous.
Il a coulé, ouais, je sais pas, ouais. En tout cas. Bon, on a deux heures d'émission.
J'ai l'impression d'être un Pliskova face à Océane Dodin, là, à 11h, à Roland-Garros, tu sais. Ça va se remplir pour le Joko Sinner à 14h30, mais vous inquiétez pas.
Pour l'instant, voilà, ouais, on est sur un troisième tour de qualif.
On va essayer de donner un 3-7 assez serré, quand même.
Donner envie aux gens de nous rejoindre. Il va falloir donner envie aux gens de nous rejoindre.
Bon, on a un match de 2 heures à faire, les gars, et ça va être musclé.
Ouais.
C'est pas terrible comme expression. On va parler de France-Brésil. C'est demain soir à Boston, bien sûr. Dernières infos et surtout Mbappé en conférence de presse à 20h30. On y verra sa conférence de presse en direct. Il est attendu, très attendu, notamment après l'imbroglio, le flou autour de sa blessure au genou, les révélations de l'after de Daniel. Notamment, il va sûrement en dire plus. Ce soir, il sera interrogé notamment par la cellule équipe de France d'RMC. Ce sera dans environ 30 minutes. Et puis, 78 jours du mondial désormais. Gros débat Ousmane Dembélé dans Génération After. Est-il forcément un titulaire indiscutable en équipe de France? Peut-on mettre un ballon d'or sur le banc? Et si on décide de l'aligner, comment mieux articuler le trio offensif, voire le quatuor offensif de l'équipe de France? On va en débattre. Un mot également sur le Brésil, d'Ancelotti. Comment va la Seleção? Est-ce encore une grande sélection, en tout cas une favorite pour le mondial? On aura Chérif Guémour, notre ami de SoFoot, qui sera avec nous, qui bosse sur le Brésil.
Le grand Chérif.
Des années déjà. Et puis on finira avec une rubrique que j'ai créée hier, qui est un grand succès.
Oh, créé, oui. Enfin, tout, ouais.
Le d'accord, pas d'accord.
Dans toutes les émissions de foot en France, il y a du d'accord, pas d'accord.
Il y a eu Ardisson,
ouais.
Un avant après Ardisson, ouais. Un avant et un après Nico Jamain, ouais. D'accord, pas d'accord. Alors comme hier, j'affirme une idée, vous me dites, vous répondez, 45 secondes par personne pour développer vos arguments. Ensuite on vote. Exemple ce soir, par exemple, Benzema est-il le plus grand neuf de l'histoire du football français? D'accord, pas d'accord.
Ok.
Vous répondez pas maintenant les gars,
ouais.
C'est parti pour Génération After. Mais d'abord les amis, annonce, grande annonce d'un grand rendez-vous. Vous le savez, on a lancé il y a un mois environ notre opération La Nouvelle Voix de l'After. On a un appel à candidature pour devenir un membre de l'équipe la saison prochaine. On a reçu, tenez-vous bien, 3500 candidatures en quelques jours. On a commencé les castings avec Jimmy, Kevin et Walid. La première étape était à Paris, au stade Jean Bouin, le stade du Paris FC. On a testé 5 candidats avec Walid, Kevin et Jimmy. Et notez bien ce rendez-vous. Vous pourrez voir le premier épisode en ligne ce vendredi à partir de 18h sur la chaîne YouTube de l'After, sur Afterfoot TV et également en podcast audio, c'est au choix. Vendredi 18h, hein, soyez présents devant YouTube pour donner votre avis, vous aussi, sur les profils qu'on a sélectionnés.
Ça a été tendu.
C'est un quart de finale. Hein. Il y a encore 3 étapes. On va aller à Lens, on va aller à Marseille.
Il y a eu un très gros niveau.
On va aller à Rennes également.
Il y a eu un très gros niveau. Et attention parce que Kevin a été intransigeant sur certains candidats. Ouais, il y a eu de la baston.
Là, on a vu le DS. Là.
Ah ouais, on a eu des visions différentes et on a dû faire des choix parce que choisir, c'est éliminé. Mais en tout cas, on a hâte d'avoir l'épisode sorti vendredi.
Jimmy a déjà vu en avant-première.
Ouais.
Je peux vous dire que c'est très, 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 très bon.
Ah ouais?
Ah vraiment?
Ah ouais, donc c'est déjà
que... Parce que j'ai pas l'habitude de survendre.
Ouais, ouais.
Non, moi j'y suis pas assez à mon goût d'ailleurs, mais c'est
un sujet. Moi je pense que ça suffit.
Ouais. Mais très bon épisode.
Ok.
Voilà. C'est on est branché vendredi.
Par contre, Walid en directeur des ressources humaines, je suis pas sûr.
Ouais.
Quoi?
Ah, je sais pas. Vous verrez dans l'épisode.
35 minutes, et au bout, bien sûr, il y a un suspense. Hein.
Ouais.
Deux candidats sélectionnés, on dit rien, et puis on ira aussi se balader, je l'ai dit, à Rennes, à Lens, à Marseille. Ce sont les quarts de finale, il y aura une demi-finale avec plein de surprises. Vendredi 18h, hein, premier rendez-vous YouTube de l'After, en podcast audio et sur notre chaîne Afterfoot TV. C'est parti les amis, l'équipe de France demain face au Brésil. D'ailleurs, ce match se jouera à guichet fermé au Gillette Stadium de Boston. Preuve que le soccer fonctionne bien. C'est une affiche, hein, prestige. Hein. Il y aura 61 000 spectateurs. Ce sera en direct sur RMC, débrief dans la foulée, dans l'after.
Entre de quelle équipe, normalement?
Les Red Sox.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Walid.
Non, j'ai pas.
Ah, ça y est, dès que ça sort un peu des frontières.
Non,
c'est
moi je suis NBA, mais après, tout ce qui est NHL, NFL, je respecte.
England, hein. Patriots.
Oh, ok.
Mais baseball, c'est où alors? C'est bien les Red Sox, le baseball aussi.
À Boston? Ouais. Oui, c'est, mais d'accord. C'est pas du tout un stade.
T'es bien plus brillant là-dessus?
Ah bah écoute,
les meilleurs sont les meilleurs. Ouais, je vais appeler Rémi Réverchon, peut-être qu'il y a une place dans notre média.
Le mec, il est meilleur sur le pourquoi sur le paye en fait, c'est magnifique.
Ça peut être. Parce que si je te demande trois joueurs d'une Ligue 1 cette année, je suis pas sûr de l'avoir. Par contre, je pense que les New England Patriots, il y aura pas de problème.
Bien sûr, Najim me rappelle que les Red Sox, c'est au Fenway Park, mythique. Stade de baseball.
Bien sûr, il connaît que le Merci l'oreille à Nico.
Alors, premier, je l'ai dit, les gars, mais je suis transparent.
Merci Najib. Ouais, t'es très transparent. Ouais.
Premier débat équipe de France ce soir dans Génération After. Ousmane Dembélé, est-il forcément un titulaire indiscutable en bleu? La question peut en faire bondir, hein, mais il se trouve que le Ballon d'Or n'a pas des références majeures avec les bleus sur le plan individuel. J'ai noté quelques stats notamment, en tout cas elles sont loin de celles du Paris Saint-Germain. Je précise qu'il avait manqué les 5 derniers matchs des Bleus, hein. Il était blessé en fin d'année 2025. Sur les 13 précédents matchs auxquels il a participé, c'est 2 buts, 1 passe. En carrière, 57 sélections, 7 buts, 4 passes pour Ousmane Dembélé. Le sentiment qu'il n'a jamais lancé sa carrière en équipe de France. Est-ce qu'on peut mettre, Kevin, un ballon d'or sur le banc avant le Mondial et pendant le Mondial?
Je n'ai pas l'impression de toute façon qu'il sera sur le banc si... il est apte à jouer et si les blessures, ses pépins physiques le laissent tranquille. Moi, je pense quand même que Didier Deschamps, ça reste un joueur qui était titulaire en finale de la dernière Coupe du Monde, même s'il avait un rôle beaucoup trop défensif à mon goût. Et d'ailleurs, il avait même concédé un penalty.
Il avait joué la thérapie ton droit. Hein, ouais.
Il avait démarré
les
aussi l'Euro.
Il avait
démarré l'Euro.
Ouais, il avait démarré aussi la Coupe du Monde 2018 titulaire.
Ouais.
Avant finalement de céder sa place. Maintenant, ça reste un joueur qui a énormément progressé, qui a pris beaucoup de maturité. Et c'est pour ça que je pense que si il est apte à jouer, l'équipe de France ne s'en passera pas. Je pense que Didier Deschamps trouvera un moyen pour le faire jouer. Est-ce qu'il jouera tous les matchs? Ça, c'est une autre question. Mais je pense quand même que c'est un joueur qui est titulaire en
plus. Qui est pour toi incontournable? Pour toi,
je vais pas dire incontournable. Pour moi, il y a personne d'incontournable.
Là, on parle d'un Ballon d'Or, on parle d'un champion d'Europe.
Oui,
mais c'est un crack absolu. Quoi.
Mbappé, ils sont pas incontournables. Comment? Bien sûr qu'ils sont incontournables.
Non, je pense. Oui, Mbappé, oui, mais encore. Je pense que l'équipe de France peut très bien s'en sortir dans les matchs de poule sans Kylian Mbappé s'il avait un souci physique.
Ah oui, moi je te parle pour aller loin. Si tu veux aller loin dans la compétition, il va falloir pour moi la Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2026, c'est le rendez-vous du duo Dembélé-Mbappé. C'est le duo.
Est-ce que ce duo existe, Jimmy? On l'a pas encore vu ce duo.
Non, on l'a pas encore vu parce qu'on n'a pas encore vu Dembélé s'épanouir en équipe de France après son changement de statut. Je veux dire, il y a une vraie bascule dans la carrière d'Ousmane Dembélé la saison dernière. Personne ne va contester ça.
C'est pas une parenthèse?
Non, je
tu
pense
crois
pas.
Qu'il y en
a il a prouvé l'inverse. Là, il a été décisif dès son retour en Ligue des Champions. Tu le vois que c'est le leader d'attaque du PSG. Et je pense qu'il y a un vrai... Ils se sont donné rendez-vous, ces deux-là. C'est fait depuis 2017 qu'ils ont commencé leur aventure commune en équipe de France. Ils n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. On le sait qu'ils sont proches en dehors du terrain également. Et je pense que d'ailleurs Didier Deschamps devrait normalement les associer. D'ailleurs demain, c'est les échos qu'on a, c'est que apparemment Dembélé va démarrer. Il y a ce fameux 4-2-3-1 qui va être mis en place. Et que moi j'appelle de mes voeux
derrière
Mbappé. Derrière Mbappé. Ça va être Olise à droite. A priori demain Doué côté gauche. Et Dembélé derrière Kylian Mbappé.
Donc Dembélé en 10.
Ouais, Dembélé
devant Mbappé.
Exactement.
Qui dézone.
Exactement. Ou les deux qui vont pouvoir peut-être se relayer, tu vois, inverser.
Ouais, ouais.
Un décrocher, l'autre prendre la profondeur, etc.
Bon, la question technique et tactique autour de Dembélé en équipe de France.
Roland disait que c'est son meilleur poste, hein, d'ailleurs.
Oui. Enfin, après, moi, je pense qu'il peut être faux numéro 9. Maintenant, de là, être numéro 10 avec un numéro 9 qui dézone énormément. Je demande à voir. Maintenant, pour revenir sur la question initiale, est-ce que ce serait une dinguerie de mettre Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, sur le banc? Aujourd'hui, en l'état, je te dirais non. Non, parce que Dembélé ne s'est pas montré indispensable avec l'équipe de France. Et pour moi, l'équipe de France et le PSG, c'est deux contextes différents, deux contextes de vestiaire, deux contextes tactiques aussi, de vécu. Et surtout, sur la dernière année, depuis l'imbroglio de la blessure contre l'Ukraine, notamment quand il était blessé, on a travaillé une équipe de France sans Ousmane Dembélé, avec un Olise qui a pris une importance... en club, mais surtout aussi en sélection. On sait que c'est l'équipe de Kylian Mbappé et que Ousmane Dembélé au PSG a un statut qui est très très différent. Maintenant, ce qu'a dit Jimmy, c'est intéressant, c'est que ça va être la première compétition avec le nouveau Dembélé. Le Dembélé Ballon d'Or, le Dembélé qui s'est affirmé comme un joueur spécial en Ligue des Champions avec le PSG. En plus, il est en train de confirmer, parce que moi je me disais, il va avoir une saison un peu où il va être repu, parce que tout l'aspect médiatique et la digestion de l'année dernière...
On n'est pas dans ça.
Mais on n'est pas dans ça. Force est de constater que contre Chelsea, il a répondu présent, notamment à l'aller, sur un but qui a été très très important. Comment il va se comporter avec ce nouveau statut mondial? Maintenant, c'est quid de sa place? Moi, est-ce qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé est un ailier? Est-ce que en 2027, en 2026-2027, est-ce qu'aujourd'hui Ousmane Dembélé peut jouer ailier? Est-ce qu'il peut jouer numéro 10? Comment va articuler Didier Deschamps? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de riche entre Olise qui peut jouer aussi à droite et dans l'axe?
Ouais, avec Olise, tu sens qu'il est meilleur à droite?
Oui, bien sûr. Moi, je préfère. Moi, mon équipe idéale serait Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé en faux numéro 9 et Olise à droite.
Mais ça, c'est pas impossible que pendant
avec,
la compète.
Et avec un milieu à 3.
Mais moi, je pense que pendant la compète, au moment
de. Kevin réagit.
Non,
mais avec Didier Deschamps, tu peux pas avoir. Enfin, tu peux. Je vais pas dire tu peux pas parce que tout peut se faire. Mais tu vois vraiment Ousmane Dembélé jouer comme avec le Paris Saint-Germain.
Pour moi, ce n'est pas possible. Je dis dans un monde idéal. Dans un monde idéal, Kevin.
Non, mais dans un monde idéal, il faut quand même que Mbappé puisse avoir son fameux pivot gang ou quelqu'un. Si lui, il veut à gauche, il veut un mec qui
fait un compromis. Moi, je pense que Mbappé à gauche.
C'est pas trop un joueur de compromis.
Parce que Mbappé, il y a deux ans, on disait que c'était impossible de le voir numéro 9.
Et qui tiquait en 9 et Dembélé derrière.
Oui, mais après, il y a la question du statut qui se pose. C'est qu'encore une fois, par rapport au pouvoir qu'a Dembélé dans les pieds, par rapport aussi à son statut en club. Par rapport à son expérience, parce que mine de rien, même si en équipe de France, le trophée n'a pas été cherché par Dembélé, c'est un peu comme dans FC 26, quoi. Tu vas chercher tous tes trophées. Il y a eu en club, là il lui manque ce côté affirmé en équipe de France.
Même s'il est champion du monde 2018, il a pas.
Voilà.
Tu penses que pour Deschamps c'est pas un titulaire s'il est apte à 100%?
Ouais, si, je pense qu'il est titulaire. Par contre, maintenant.
Il peut aussi disparaître de l'équipe au fur et à mesure de la compétition.
Par contre, est-ce qu'aujourd'hui c'est un incontournable comme Mbappé peut l'être aux yeux de Deschamps? Je pense que non. Et surtout, je pense que la place de Dembélé, et moi je vais même te dire, la trajectoire qu'a pris Dembélé en club emmerde Deschamps. Parce que en fait, c'est l'équipe d'Mbappé. C'est aujourd'hui, on l'a vu avec Griezmann et Mbappé, c'était très très difficile. Alors que normalement, je pense que
tu dis la place, tu parles du statut.
Mais
en fait.
le statut, même sur le terrain, parce que Griezmann, c'était plus une histoire de statut. Mais Griezmann, si tu regardes bien, c'est deux joueurs qui sont compatibles. Griezmann et Mbappé sur un terrain, ils l'ont déjà montré.
Je pense que Dembélé
et Mbappé sont moins compatibles. Moi, je fais une comparaison entre Vinicius et Mbappé et Dembélé. Mbappé. Pour moi, c'est les deux joueurs.
Non, mais ils jouent pas au même poste.
Tu veux dire quoi? Qu'ils ont besoin de trop de liberté tous les deux en réalité, quoi.
Oui.
Je rappelle que Dembélé au trophée NFP, on avait débattu, soufflé à l'oreille de Deschamps. Je vais lui dire de me faire jouer devant en neuf dans l'axe.
C'est emmerdant pour Deschamps.
Si Dembélé peut jouer avec des joueurs comme Barcola, même des joueurs comme Doué en club, pourquoi il pourrait pas jouer avec Mbappé? Pour le coup, Mbappé, il va faire des appels. Dembélé, il a un bon qualité de passe.
Parce qu'il faudrait qu'Mbappé joue à gauche. Et Dembélé en faux numéro 9, sauf que tu viens de me répondre il y a 3 minutes que c'était inconcevable parce que Mbappé veut jouer en 9.
Même s'il joue en 9 et que Dembélé joue à droite, en 10, peu importe.
Je pense que Dembélé à droite, point d'interrogation sur son rôle aujourd'hui, est-ce qu'en tant qu'ailier, il peut jouer encore à droite? Surtout que Olise est le meilleur joueur derrière Lamine Yamal à ce poste-là au monde.
Mais Olise peut aussi jouer en 10, ça peut intervertir.
Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'il y a trop aujourd'hui de possibilités.
Ça, c'est pas forcément un problème.
Oui, mais je pense que pour Deschamps, c'est un problème. Parce que il a besoin d'avoir un truc cadré, structuré, et que aujourd'hui.
Sans le ballon, Dembélé, c'est le meilleur.
Je pense que c'est en ça que ce rassemblement, on cherche souvent des intérêts sportifs, notamment à ces matchs-là. Je pense que ce rassemblement va servir aussi à ça, à roder ce duo-là. Oui. Je pense qu'il va
construire
un duo-là. C'est court, bien sûr, mais
il y aura Mbappé qui est forcément à 100%, qui va être ménagé sur le match face au Brésil. Ça n'aura pas valeur de test réellement.
Et juste pour
rebondir
sur ce que disait Walid par rapport à Griezmann Mbappé, je pense que Dembélé Mbappé, de par leur relation,
oui, c'est vrai,
en dehors du
pas
terrain,
avec Griezmann, ils s'entendaient pas.
Tu vois, il y avait pas cette complicité là Mbappé avec Griezmann qu'il a avec.
Oui, mais sur le terrain, ils
s'entendaient. Les mecs, je pense qu'ils sont en mission. Je pense que les deux sont en mission. Et que ça peut. Ça
mais d'accord, histoire de mission impossible, etc. Il n'y a pas de souci. Bien évidemment que Dembélé.
Tu peux jouer avec les deux devant.
Mais Dembélé, aujourd'hui.
Non, mais
la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est son dernier. Ce qu'il a fait avec le PSG, etc., c'est la dernière marche qui lui manque. Donc, bien évidemment qu'il va arriver en mission dans ce type d'échéance.
Et se sacrifier, être capable de se sacrifier, être capable de faire.
Mais c'est quoi se sacrifier?
Ça veut dire de faire du remplacement défensif un peu plus, comme il le fait d'ailleurs avec le PSG.
Avec le PSG, ça n'a jamais été un problème.
Moi, je pense carrément.
Enfin, les remplacements défensifs, il va plus chercher haut qu'il revient.
Kevin.
Moi, je pense carrément que si Dembélé est à 100%, ce que je souhaite, moi, je pense que ça doit être le. Ça le sera pas, mais moi, même dans l'esprit de Deschamps, avec ce qu'il fait maintenant, Dembélé, l'agressivité sans le ballon, l'exemplarité, même tactiquement, il est intelligent, Dembélé. Pour moi, c'est presque. Tu joues presque où tu veux, mon gars. Démarrer à droite ou en 10.
Donc,
et après, tu vas changer avec Olise, tu vas aller driver les jeunes.
Et
Mbappé, j'espère qu'il va te suivre. Mais pour moi, c'est quasiment le leader de l'attaque.
Mbappé aussi joue
dans le jeu, hein, je parle pas
Kevin,
dans la définition.
Mbappé réclame aussi une liberté. En tout cas, il impose une liberté sur le terrain.
C'est pour ça qu'on le met
des zones, qu'il peut aller à gauche pour entrer dans l'axe,
il
peut aller à droite,
il peut descendre. Que pour ça. Parce que sinon, il est pas bon en neuf. Pas meilleur qu'en tout cas quand il est à droite ou à gauche. Pour rappeler quand même qu'en 2018, il jouait à droite. Mais aujourd'hui, qui est le leader de cette attaque? Que ce soit sur et en dehors du terrain, dans la tactique. Pour moi, si Dembélé est à 100%, c'est lui le cerveau de l'attaque.
Oui, mais le problème, c'est lui le cerveau de l'équipe. Mais ça, encore une fois, c'est un fantasme. Non. Parce qu'on ne l'a pas vu en équipe de France.
Ouais, mais on ne l'a pas vu parce qu'il a eu des pépins.
Oui, c'est une question. On n'a jamais vu un excellent Dembélé en équipe de France. On peut le dire, c'est pas un problème. Mbappé a mille références que Dembélé n'a pas en équipe de France.
Mbappé, c'est des stats.
Ça reste l'équipe de Mbappé.
Mais c'est l'équipe de Mbappé, quoi qu'il arrive. Moi, sur Mbappé, il faut être honnête, ça reste son équipe de France. Il y a Mbappé avec l'équipe de France et en club où le mec soit dans les grosses compétitions.
En Real, c'est le patron,
c'est son équipe, etc. Il a le brassard de capitaine, que tu le veuilles ou non. Un Dembélé, le fantasme Dembélé, pour l'instant, c'est-à-dire d'être le leader de l'équipe de France, on en est loin. Maintenant, ça va être au terrain de parler. Si sur le terrain, il est capable, comme au PSG, parce que attention, au PSG, il était dans un rôle de lieutenant la première année quand Mbappé était là. Il a récupéré.
Ils font demi-finale.
Bien sûr, mais il était très bon dans la création. Attention, oui. Sur le côté avec Hakimi, oui. Les deux couloirs, c'était très intéressant ce qu'il mettait en place. Mais l'année d'après, il a été cherché sur le terrain ce leadership et ce côté leader technique et leader d'attaque. Et en équipe de France, c'est la même chose. Il y a un moment, si tu veux renverser la table, c'est les performances en équipe de France qui font que. Et pour l'instant, moi, je trouve que dans la dynamique, il y a deux joueurs qui ont été le chercher, ça. C'est Mbappé, mais j'en parle même pas parce qu'il a un CV. Et c'est Olise. C'est-à-dire que Olise est le leader technique du Bayern Munich. Dembélé est leader technique du PSG. Mbappé est un grand attaquant au Real Madrid.
Mais c'est pas un leader.
Et c'est pas un leader. Mais si tu prends les trois.
C'est pas un leader technique. Hein.
C'est pas un leader technique, mais par contre, c'est un catalyseur. C'est un catalyseur. Ouais. C'est un mec qui
fait peur, qui met tout le monde en face.
C'est pas un leader technique.
Mais ça reste ton leader. Ça reste ton leader, que tu le veuilles ou non. Depuis 8 ans en équipe de France. Et Kevin, je terminerai là-dessus. Tu penses pas, pour revenir à mon débat initial, pour Deschamps. Tu sais, toi, tu disais tout à l'heure, on parlait d'NFL, etc. C'est la comparaison américaine sur la NBA.
Qui prend les shoots,
qui vient à la base, qui fait les appels, qui fait le sale boulot pour l'autre, etc. Est-ce que Mbappé aujourd'hui va se restreindre?
Jamais. Non, mais l'inverse, oui. Dembélé, il peut se restreindre. Il peut faire le sale boulot.
Mais c'est quoi le sale boulot numéro 10? Tu l'as vu en Croatie, le match en Croatie, où ils prennent 2-0 à la première mi-temps. Il avait tenté un 4-4 de Los Angeles immonde avec Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. Ça marche pas.
Non,
parce que tu peux pas reproduire ce que t'as eu au PSG, où tout est huilé.
Ça, c'est sûr que quand t'es Deschamps, tu peux pas avoir le projet.
Mais donc, les gars, ces questions-là sont légitimes aujourd'hui.
Bien sûr qu'elles sont légitimes.
Et demain, est-ce que tu vas dans le mur, façon un peu 2002, avec tous tes offensifs, là, dans un 4-2-3-1, ou est-ce que tu retrouves peut-être un peu plus de cohérence et t'en coupes un? Et
c'est sûr qu'il finira
pas. Mais si tu coupes un, tu peux pas couper Dembélé. Pour moi, c'est pas Dembélé que tu vas couper.
Mais parce que il a le CV Ballon d'Or.
Bon, les gars,
ou parce que c'est le joueur le plus pertinent.
Parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe, s'il est à 100%.
On a fait le tour, les gars. Sur ce rassemblement, Brésil jeudi, Colombie dimanche.
C'est pas le CV qui doit jouer en club, c'est pas ça.
Demain soir, Colombie dimanche.
Même si moi, je suis un grand fan de Dembélé.
On est à 78 jours du mondial. Quelles sont les certitudes que vous avez sur l'équipe de France aujourd'hui et quel est le bonbon de ce rassemblement pour vous? Quel est le joueur que vous voulez voir absolument briller? C'est peut-être un Michael Olise qu'on veut voir prendre ses responsabilités également comme il le fait au FC Bayern. Ça peut être un Désiré Doué qu'on va grandir en plus avec les Bleus.
Ah, moi c'est Maxence
Lacroix. Ça peut être un élément défensif.
Maxence Lacroix, ouais,
d'accord, merci Walid. Merci Walid. Kevin, toi.
Les certitudes ou celui qu'on veut voir briller?
Les deux.
C'est rien de Cherki pour Kevin.
Les certitudes, je pense, ça reste quand même des joueurs qui aujourd'hui sont très très bons en club, comme Tchouaméni par exemple. Tchouaméni, moi j'ai envie de le voir briller, j'ai envie qu'il continue sur la lancée.
On n'aura pas de mauvaise surprise, il est posé, voilà, il est installé.
Moi, voilà. Et après, celui que j'ai envie de voir briller.
Ton interrogation, c'est quoi?
C'est pas forcément Cherki, mais j'ai envie de voir avec Liouche par contre. J'ai envie de voir si avec Liouche va pouvoir tirer le trait de ce qu'il fait avec Monaco sur les dernières semaines.
Comment ça tirer le trait? C'est pas confirmé en tout cas.
Oui, voilà.
Confirmé. C'est bien avec Liouche, on devait en parler hier justement. Il y a un mois et demi, on en avait fait un débat dans Génération After, c'est un débat récurrent qui revenait. On disait, garçon, Marnès, t'es pas prêt pour le mondial visiblement. T'iras pas voir les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, Jimmy, par exemple, il est devenu quasiment incontournable, le terme est un peu fort, mais il a gagné sa place sur les 6-7 derniers matchs avec l'AS Monaco?
Non, je suis pas sûr de ça. La concurrence, elle est tellement rude.
Oublié qu'il y a 26 places quand même. Hein.
Ouais, mais il y a 26 places.
Même s'il en prendra pas 26,
hein, déjà.
Il en prendra pas 26.
Il en prendra, ah,
il en prendra
26 d'une part.
Il en prendra 25.
Et t'as tellement de profils, en fait, devant. C'est-à-dire que tu étais en concurrence avec.
Lui, il peut jouer au milieu.
Déjà, on a parlé de tous les monstres.
Après, il est dans toute la liste depuis.
Il y a Cherki, il y a Doué, il y a Barcola qui est pas là. Il y a aussi les soldats de Deschamps que, quoi qu'il arrive, tu sais que même s'ils sont en difficulté, je pense que T'as compris, la Colomani, il est dans cette liste-là.
Colomani, c'est bon, il y sera, les gars.
Donc, si dans cette liste-là, a priori, c'est qu'il sera à la Coupe du Monde.
C'est le chouchou, c'est le doudou.
Il sera aussi à la Coupe du Monde. T'as Ekitike qui a émergé aussi. Moi, j'adore le joueur.
Tu le prends pas ?
C'est pas que je le prends pas, c'est que pour moi, sa place n'est pas garantie au regard de la concurrence qu'il y a.
Moline.
Moi, je pense qu'il y sera. Je pensais qu'il n'y serait pas sur les dernières semaines, mais j'ai l'impression que les matchs Didier Deschamps là contre moi contre le Paris Saint-Germain ont été bien manœuvrés par Akliouche. Ces derniers rassemblements n'ont pas été mauvais et que s'il y a une liste à 26 de par son profil, je pense qu'il pourrait y être. Déjà, il est passé devant Thauvin parce qu'il y a un moment on pensait que Thauvin était passé devant Akliouche, notamment après l'Azerbaïdjan. J'ai l'impression quand même qu'il y sera. Après, il y a aussi un truc à dire, c'est que Nico, on le souhaite à personne, hein, mais il y a une fin de saison avec des joueurs qui seront concernés dans des grosses compétitions et les blessures, et le paramètre blessure pour les offensifs, bon. Entre le PSG, Liverpool, le Real Madrid, le Bayern.
Il va peut-être dépendre de ça,
ouais,
en fait.
Donc je pense que globalement, lui, avec sa petite saison normale à Monaco, ouais, un match par semaine, ouais, il y sera, je pense. Si aujourd'hui je dois mettre un billet,
moment qu'on va parler des arnaqueurs quand même dans cette
justement, c'était ma transition. Merci, Kevin. On se connaît bien, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Question un peu piège, un peu fiel, un peu piquante. Quelles sont les anomalies de la liste pour l'instant ?
Les arnaqueurs, c'est
les
fort,
anomalies.
Quoi ?
Anomalies.
Les deux frères irlandais, c'est pas des arnaqueurs.
Arnaqueurs, tu veux aller sur les frères irlandais ?
Ben si, pour moi, avec toute l'affection que j'ai pour eux, mais c'est des arnaqueurs sur la liste. Franchement, qu'est-ce qu'ils font là ? Je suis désolé.
En fait, ils ont un CV en équipe de France, quoi.
Non, mais d'accord, tu viens de dire que le CV, ça peut pas tout à l'heure.
Non, le CV pour. Le
gars, il est numéro 4 au Paris Saint-Germain.
Le CV en club. Je te parle du CV en club par rapport à ce que tu fais en équipe de France. Oui. Théo Hernandez et Lucas Hernandez.
Moi, ce que t'as fait en équipe de France, c'était avant, quand même.
Non, mais déjà, Lucas Hernandez, tu vois bien que Maxence Lacroix vient d'arriver en équipe de France. C'est dire que le vivier aujourd'hui, entre la blessure de Loïc Badé,
entre
Wesley Fofana, qui est pas bon du tout avec Chelsea. Bon, bah, Lucas Hernandez, avec la blessure de Saliba, tu te dis déjà qu'à la base, pour trouver un quatrième, moi j'essaie de faire ma liste des 26, les petits jeux, etc. Ouais. Sur les réseaux, pour trouver un quatrième central, Lucas Hernandez, il arrive quand même rapidement par défaut. Je pense que c'est par défaut. Et après, Théo Hernandez.
Non, mais il y sera quoi qu'il arrive.
Après, Théo Hernandez, c'est digne et pas dans la forme de sa vie. Et Udol, il y a toujours le point d'interrogation.
Non, Udol sur la défense à 4. Tous les jours.
Et Fernand Mendy est blessé. Fernand Mendy n'a jamais été fan
des champs aujourd'hui. Théo Hernandez.
Mais ça n'empêche pas que moi je rejoins Kevin, c'est un peu une anomalie quand même.
On
ouvre la table à un croisiériste qui est avec nous sur le bateau des 20 ans de l'after. Salut.
Salut, bonsoir à toutes.
Quel est ton prénom ?
Xavier, c'est levé direct.
C'est Xavier ?
Ah, quand on a parlé des frères irlandais, c'est levé direct.
Ah ouais.
C'est
Xavier. Tout à fait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette année, à la Coupe du Monde, il y a un match en plus. Et donc, si on part avec 4 défenseurs centraux et qu'il y en a un qui se blesse dès le début, et ben, ça veut dire qu'Hernandez, ça devient le premier remplaçant.
Non, parce que t'as
Koundé qui passera devant Hernandez,
Saliba, Konaté.
Et t'as Koundé qui est quatrième, jouant en défense centrale.
Et donc, mais il a dit s'il y a une blessure.
Laissez parler Xavier. Vas-y, Xavier.
S'il y a une blessure ou un suspendu, Hernandez, il est là pour être le quatrième. Et je pense pour être le quatrième, il y a mieux à prendre. Il y a Wesley Fofana.
Il est catastrophique en ce moment. Moi, j'aime bien Wesley, mais en ce moment, le match qu'il a fait contre Everton et la double
contre le PSG, c'est pas ça. L'autre, il joue pas du tout quand même.
Qui, Lucas Hernandez ?
Ah oui.
Oui, d'accord. Mais même Wesley Fofana, en interview d'après match, il te dit l'équipe de France. Je sais même pas si aujourd'hui je suis en capacité d'enchaîner.
Mais tu prends qui, Xavier, par exemple ?
Donc il y a un moment.
À part Fofana, il y a qui d'autre qui émerge selon toi ?
On peut éventuellement prendre Udol, qui est capable au juste de jouer axe gauche comme il le faisait à Metz,
mais pas à 4.
Et après il y a Cavaminga qui est capable de couvrir le poste de Lucas Hernandez. Donc à gauche, je suis moins inquiet. Mais je pense qu'il faut prendre, le quatrième défenseur. Ça doit pas être Lucas Hernandez.
D'autres qui alors ? Y a pas. Badé blessé.
Loukeba.
Mais non, mais Loukeba.
Benjamin Pavard.
Trop loin.
Non, je plaisante.
Hein? Non, mais Loukeba, il fait sa saison avec la Ligue. Mais tu vois, c'est pour moi, pareil, Benjamin Pavard. Dans les rêves des champs, Loukeba, il rentre pas.
Vas-y, Xavier.
Il joue pas avec des champions, il rentre pas.
Pour un quatrième, je pense que Benjamin Pavard, il a un vécu en équipe de France. Il peut prendre le rôle de Adil Rami. Mais Hernandez, il joue pas du tout. Il joue même pas dans l'équipe.
Benjamin Pavard, il fait la saison qu'il fait,
c'est dur. T'es supporter de quel club, Xavier?
Moi, je suis supporter de Lens.
Ah, je pensais à Udol.
Non, moi, la seule question, c'est Udol. Après, Udol, c'est toujours le même. C'est toujours la même.
Mais Udol, s'il n'a pas pris là, il va pas faire
la même chose. Non, mais c'est toujours la même chose. Sur la dynamique, bien évidemment, qui mérite. C'est le meilleur latéral gauche cette année.
T'as 26 noms, mais pourquoi tu prends pas Udol?
Oui, mais après Udol, est-ce que demain il est titulaire en équipe de France?
Le logiciel Deschamps.
Pour défendre sur Yamal, etc., sur les Anglais. Est-ce que Udol, par rapport. Lance,
c'est. Ah ouais, parce que Hernandez, tu crois pour défendre sur Yamal?
Mais c'est un mec qui a connu ce très haut niveau-là.
Oui, il y a 27 ans.
Il ne joue plus
en Arabie Saoudite.
C'est un homme. Le vivre ensemble selon Deschamps, c'est important.
Moi, j'ai vu un transfert.
C'est essentiel pour lui.
J'ai vu un transfert il y a un mois de Cancelo qui est en Arabie Saoudite. Il est en train de mettre une claque à tout le monde au Barça.
Attention, Cancelo, t'as vu l'hygiène de vie, t'as vu.
Enfin, excuse-moi, d'accord, mais
c'est vrai que l'histoire. Ça compte dans le football quand même.
Il y a un mépris sur l'Arabie Saoudite de la part de Nico sur il joue plus. Il joue encore.
Mesure tes propos quand même.
Il joue à Al-Hilal.
Parce qu'il y a du public autour de toi qu'il faut forcément envoyer des.
Je sais pas, c'est pas il joue plus. Il quand même, il joue.
Allez, il y a l'hypothèse Tchouaméni. Tchouaméni qui peut reculer. Éventuellement,
c'est
bien.
Il a beaucoup fait au Real. C'est Thuram, il est gardien, c'est Kamavinga à gauche.
Alors, Walid, je te pose une question. Si sur un match coup près, il y a besoin de quelqu'un en défense centrale, tu mets Hernandez ou tu mets Tchouaméni?
Très bonne question. Vas-y avec ta grande bouche.
C'est pas mal.
Nous allons faire une pause.
Vas-y avec ta grande bouche.
Oui, c'est possible. C'est possible.
Voilà, il commence à bégayer.
Après, je mets quand même Konaté.
Ça fait 4 ans qu'on bosse avec lui. J'ai jamais vu aussi.
Moi, je mets Konaté ou Koundé.
C'est magnifique.
Oui, je mets Konaté ou Koundé.
Si on va plus loin, s'il y a un blessé, on va
plus loin.
On va
aller
plus loin.
On parlera à ceux qui ont fait les sélections.
Bon, sortez-le moi du bateau, Xavier.
Bonne soirée
à toi.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu au micro de Génération.
Sortez-le moi parce qu'il met en grande difficulté, il me gêne depuis tout à l'heure.
Merci Xavier.
Je peux me le voir.
Merci Xavier. Dans un instant, tiens, on écoutera en direct de Boston le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps bien sûr. Et surtout le rendez-vous, c'est Kylian Mbappé d'ici 20 minutes en conférence de presse pour revenir notamment sur l'imbroglio blessure, le genou, les révélations de l'after. On en parle sur RMC avec Walid, Kevin et Jimmy.
Il a dit des trucs intéressants, Didier Deschamps.
Réponse dans un instant. Il n'a pas encore parlé. Tu m'écoutes, la conjugaison, la grammaire.
Tu penses qu'il va être intéressant?
Hein?
Tu penses qu'il va être intéressant?
Tu rattrapes pas, Kevin. T'as pas écouté. Allez, pause, on revient dans un instant. Génération
parle de conjugaison.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Walid, Kevin et Jimmy, on perd pas de temps. On va à Boston tout de suite. Kylian Mbappé en conférence de presse. On l'écoute.
La seconde question pour Arthur Perrault.
Question à venir.
Pour Arthur Perrault, tu es déjà revenu un peu sur ton état de forme et les différentes informations qui ont pu sortir ces dernières semaines. Pour revenir sur la gestion de ton cas par le Real Madrid, tu as quelques regrets sur la façon dont ça a été géré, notamment les différents examens médicaux. Merci beaucoup.
J'ai jamais été un joueur ou un homme qui a de regrets. La seule chose que je vois, c'est ce qu'il y a devant moi, c'est le présent et c'est le futur proche. C'est que je suis content de pouvoir me sentir bien à nouveau, de sentir bien mes deux genoux, de pouvoir prendre du plaisir à nouveau sur le terrain. Et je pense que d'une certaine manière, je le dois aussi à mon club. Donc je suis très content de pouvoir être ici et de pouvoir être apte et en bonne santé.
La première réponse de Mbappé, hein,
qui
fait sobre dans sa réponse à la question d'Arthur Perrault. Il va bien, il est content, il est rassuré.
Je sais pas, il faut demander au coach. Moi, je suis prêt à jouer. Si c'est que moi, je suis prêt à démarrer, je suis prêt à aider l'équipe. Après, le coach fera des choix et l'ensemble des joueurs, dont moi, on sera là pour les accepter et pour donner le meilleur de nous-mêmes, peu importe le nombre de minutes qu'on va jouer.
On a Kylian Mbappé très prudent hein, dans ses réponses en conférence de presse. Un peu neutre, c'est pas son habitude. Allez, on écoute une réponse.
D'accord.
Ah, c'est une question en anglais sur la Norvège, adversaire de l'équipe de France. Bon, on reprend tout à l'heure le son. En plus, c'est pas très très bon en direct de Boston. C'est pas la meilleure qualité.
Une observation, tu sens qu'il a mis le feu ces dernières 48 heures parce qu'il s'est senti obligé de dire je suis là, c'est aussi grâce à mon club. Tu sens qu'au club, il a dû avoir des petits retours sur la sortie, notamment en marge de la conférence qu'il a tenue.
J'ai dû aller à Paris pour me rassurer et me soigner. En
clair. Il a dit c'est aussi grâce à mon club que je suis là.
Trouver le bon diagnostic. Voilà. Voilà, Mbappé, on est à l'écoute, hein, bien sûr, de la conférence de presse. On nous prévient s'il y a une sortie différente du capitaine de l'équipe de France. J'accueille Chérif Guimour avec nous, journaliste au foot, grand ami de l'After. Salut Chérif.
Bonsoir à tous.
Salut Chérif. Quelle voix mythique.
Chérif, la légende.
La légende, Chérif, une des plus belles plumes du journalisme, pas sportif, français, tout simplement. Combien de livres t'as écrit, Chérif? Combien de livres?
7, 8, 9, 7, 10.
9, 10, ouais, d'accord.
Il y a les bouquins individuels et les bouquins collectifs. Comme le dernier Platini, c'est un bouquin collectif.
C'est comme Marc Maury avec Rafael Nadal, quoi. 7, 8, 9, 10.
À l'entrée de Rafael Nadal sur le Châtrier. Bon, Shérif, on voulait parler du Brésil avec toi parce que tu bosses déjà sur un gros dossier Brésil pour la Coupe du Monde.
Je m'intéresse,
pour,
ouais.
Pour ce foot, hein. Ouais. T'as maté la campagne de qualification. Moyenne. Cinquième, zone M Sud, le Brésil. Alors attendez, on me dit, question sur le successeur de Deschamps, Kylian Mbappé.
Des volets de secret, Zinedine Zidane, c'est un sujet pour vous en interne, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez? Ça c'est ma première question.
Le son est meilleur, c'est
le timing de cette annonce. Deuxième question, et une petite troisième, comment tu vis le fait de côtoyer un ballon d'or pour la première fois? C'est la première fois que Ousmane revient en ballon d'or en équipe de France, et je voulais savoir quel statut un peu différent peut-être il avait.
Oh, la question osée.
La première question c'est le sélectionneur. Non, j'ai appris la déclaration du président lorsque j'étais à un événement. C'était avant-hier. Donc avant je savais pas. Ensuite, non, on n'en parle pas. C'est pas quelque chose à laquelle on parle parce que il y a une actualité plus pressante et que je sais que le débat à un moment donné va revenir sur la table parce que la Coupe du Monde va passer et on va avoir un nouveau coach. Et la troisième question, Ousmane, c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un comme Ousmane dans l'équipe. Il nous apporte tellement. On a eu la malchance qu'il n'ait pas pu jouer beaucoup ces derniers temps pour nous. Mais c'est excellent qu'il puisse être de retour avec nous parce qu'on a besoin d'avoir des automatismes avec lui parce qu'on a l'intime conviction en tant qu'équipe et en tant que groupe qu'il va être un joueur extrêmement important pour nous. Et on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse aussi performant avec nous qu'il est avec son club. Parce que s'il est performant comme avec son club, on a beaucoup de chances de gagner.
Waouh. Courageux, hein, le journaliste hein, qui a posé la question. Ça te fait quoi, Kylian, de jouer pour la première fois avec un ballon d'or, quoi?
Bon, en tout cas, il a très bien répondu.
Il est bon.
On a l'intime. Il est un peu politique. On a l'intime conviction.
Il est un peu politique. Il est très politique.
Poser trois questions et voir Mbappé répondre aux trois et les retenir, c'est très
solide. Il parle de sa blessure également, écoutez.
Votre club, le Real Madrid, vous avez peu joué cette année à cause de cette blessure-là. Le club a très très bien fonctionné en votre absence. Est-ce que ça vous a surpris?
Ils y vont, hein.
Non, l'information qui dit qu'ils ont sculpté le mauvais genou est pas vraie. Comme j'ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation parce que quand tu communiques pas sur ce que tu as et quand tu communiques pas sur ce qui se passe, ça laisse porte ouverte à des interprétations et chacun s'engouffre dans la brèche, c'est le jeu. Je sais dans quoi je m'embarque quand je communique ou je communique pas. Maintenant avec le Real Madrid, on a toujours eu une communication qui était assez claire. Que ce soit lorsque j'ai commencé ma rééducation à Madrid ou quand j'ai été à Paris où j'ai été accompagné par le docteur, un kiné et le préparateur physique du club où on a travaillé depuis Paris. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Après, l'équipe, je pense que c'est très bien. C'est très bien que l'équipe puisse jouer comme ça parce que c'est très important. C'est un moment important de la saison. Pour moi qui était dehors, c'était vraiment important que je voulais que l'équipe gagne les matchs parce que c'était des moments importants. Je voulais pas qu'on sorte de la Ligue des Champions, je voulais pas non plus qu'on soit encore plus distancé en championnat. C'est super et je pense que c'est une super pression pour nous les joueurs aussi qui vont revenir parce que quand l'équipe fonctionne, il faut rentrer dans le moule et je pense que c'est bien. Après, je pense aussi que c'est les aléas du football et que tout le monde a une vision très court terme. Je me souviens quand j'étais blessé début janvier, on a perdu la Coupe du Roi et la Super Coupe. J'étais pas là. Tout le monde pensait que j'étais l'unique solution du club alors que c'était pas le cas. Et là, maintenant qu'on gagne et que l'équipe joue bien, des gens peuvent penser que l'équipe jouera bien sans moi et il faudra voir quand je reviendrai.
Très sage, Mbappé, hein. Beaucoup de sagesse.
Ouais, hein. Alors, juste précision, il y a eu quand même revirement à 180 degrés en 48 heures entre le moment où il dit, il y a deux jours, quand il fait son fameux événement dont il parle, il dit « je peux pas tout dire sur ce qui s'est passé parce qu'on est en milieu de saison, etc. » Tu sens qu'il a pris un énorme coup de pression du Real.
Jimmy,
il y a eu recadrage de la part du Real, où là il dit « tout a été formidable ».
On sait rien s'il y a eu recadrage.
Non mais le mec, il y a deux jours,
oui.
Il y a deux jours, hein, c'était pas il y a deux mois, il y a deux jours, il dit « j'ai dû venir à Paris pour savoir ce que j'avais sous-entendu. »
Pour avoir le bon diagnostic.
Pour avoir le bon diagnostic sous-entendu à Madrid, on me l'a pas donné, premier point. Deuxième point, il dit clairement, c'est sa phrase, je reprends ses mots, il dit « on est en cours de saison, donc je peux pas tout dire ». Sous-entendu, Il y a eu des gros dysfonctionnements au Real. Et là, il te dit maintenant, tout s'est bien passé, le Real, on a eu l'accompagnement.
Bon, il y a une volonté d'éteindre toute polémique naissante.
Il y a quand même une zone grise dans le jeu.
Il a dit aussi qu'il avait une part de responsabilité. Il a dit beaucoup de choses. Non, moi, je trouve que sa sortie d'aujourd'hui, elle n'est pas forcément à mettre, disons, en porte-à-faux avec ce qu'il a dit il y a deux jours. Aujourd'hui, il est.
Il est l'inverse.
Ouais, mais il est dans un autre cadre, il est avec l'équipe de France.
Non, mais toi, tu juges la forme et la com. Là, on parle du fond.
Sur le fond, il dit là.
C'est deux versions un peu discordantes, mais peu importe, à la limite.
Voilà.
On a compris, il y a sûrement un coup de pression, réponse politique, plus sage.
Ça, après, on en sait rien.
Ou alors, il s'est mis lui-même peut-être.
Coup de pression ou pas, en tout cas, il ne tient pas la même version en 48 heures. Ouais, c'est tout.
Bappé, là, qui répond en anglais, on nous tient au courant s'il y a d'autres réponses sur ce sujet ou d'autres sujets autour de l'équipe de France. On ne sait pas s'il débutera, en tout cas, demain, lui-même ne le sait pas. On verra ça. Bon, Shérif, le Brésil, je disais cinquième de la zone M Sud, derrière l'Équateur, bonne sélection, naissante, derrière la Colombie, derrière l'Uruguay, l'Argentine bien sûr, qui a survolé cette campagne de qualification. Que vaut ce Brésil d'Ancelotti? Est-ce qu'il y a une évolution dans le style? Est-ce qu'Ancelotti a imprimé une marque déjà? Pour l'instant, c'est pas couronné de résultats flamboyants, même si l'essentiel, l'important, c'est la Coupe du Monde.
Alors déjà, dans un premier temps, Ancelotti s'inscrit sur la durée. Au départ, son contrat courait jusqu'à la Coupe du Monde. Il a été prolongé de 2 ans. Donc, il s'installe. Son fils est revenu proche de lui. Donc, il y a quelqu'un à la barre. Les dernières images du carnaval de Rio ont vu un Ancelotti boire des bières et s'imprégner de la culture brésilienne. C'est très important.
Ça l'a marqué, il l'a dit. Hein.
Voilà.
J'ai vu le Brésil.
Il s'est sur le carnaval de Rio. C'est très important pour le Brésil.
Oui, c'est vrai. Il est brésilien. C'est comme ça.
Non, bien sûr, le carnaval, il est brésilien.
C'est important. Voilà, il est brésilien.
Voilà. À côté de ça, on connaît Ancelotti. Ancelotti, c'est pas un doctrinaire, c'est pas un dogmatique, c'est quelqu'un qui sait construire des équipes. Ça veut dire qu'il est capable de prendre les meilleurs Brésiliens qui jouent en Europe, mais les meilleurs Brésiliens qui jouent au Brésil. Il ne les oubliera pas. Ça, c'est fondamental. Les matchs référence, il faut pas les trouver dans les éliminatoires, plutôt dans les deux matchs amicaux qu'il y a eu en novembre. Le premier contre le Sénégal, 2-0 à Wembley, et 1-1 contre la Tunisie. La Tunisie, c'est pas grave, il a changé l'équipe. J'invite tout le monde à revoir le résumé de Brésil-Sénégal. Qui va nous donner une indication de ce que va être le Brésil 2026.
C'est à quoi pourrait ressembler le 11 également au mondial, quoi.
Pardon?
C'est à quoi pourrait ressembler le 11?
À peu près. Il y a eu des blessures.
Rodrigo blessé.
Ah non, mais là, les amis, j'ai la liste pour demain déjà.
À la Coupe du Monde.
Il faudra voir comment ils reviennent.
Paqueta et Guimarães qui n'ont pas été rappelés parce que.
Guimarães blessé. Bon, Marquinhos blessé que pour ce match contre l'équipe de France de retour contre la Croatie. Alexandro n'est pas là. Gabriel n'est pas là. Guimarães, tu l'as dit. Estevao n'est pas là. Ouais. Alisson Becker n'est pas là aussi.
Rodrigo sera pas là.
Rodrigo, ligament.
C'est fini. Grosse perte. Énorme perte, Rodrigo.
Qui est un élément important.
Ce qui permet à
Rodrigo, énorme perte.
À Hendrick de réintégrer la sélection.
Voilà. Ce qu'on se demande aussi, c'est quid de Neymar.
J'y arrive.
On va y venir, tranquille. On arrive. Chef sur les meilleurs brésiliens, l'équipe contre le Sénégal est très européenne quand même.
Oui,
et
Alexandro,
sinon c'est 10 joueurs qui jouent. Les 10 autres sont des joueurs qui jouent en Europe.
Tout à fait. On part a priori sur un 4-4-2. Le cœur du jeu va s'articuler autour de Casemiro.
Ouais.
Grande saison.
Avec United.
Hein?
Avec Manchester United.
Grande saison avec United. C'est l'homme de base. Alors on dit, ouais, United, c'est Bruno Fernandes. Non, c'est Casemiro.
Mais il le connaît bien en plus.
Donc c'est un peu après, Bruno Fernandes aussi.
Bruno Guimarães.
Non, pas de souci.
Non, mais dans l'équilibre de l'équipe, là où je rejoins Chérif.
Alors, on va rappeler les fondamentaux du Brésil. Les fondamentaux du Brésil, c'est 2 latéraux, un numéro 9, un numéro 10. Il n'a pas ça, Ancelotti. Il n'a pas des grands latéraux. Il va falloir faire avec.
Ce sera Wesley de la Roma et Douglas Santos demain.
Wesley, Zenith. Très bon. C'est la petite étoile qui monte à AS Roma. Pas de souci. On va miser sur ce que j'ai vu sur le Sénégal, parce que je pense que c'est là qu'il y a le plus
d'informations.
Alors, bloc haut, pressing hyper agressif et volonté de faire la décision dès la première mi-temps.
Ce qu'on n'a pas vu au Qatar, exactement. Pas. Voilà.
Absolument. Donc, t'as pas de numéro 10, t'as pas vraiment de numéro 9. Alors après, on peut discuter, Joao Pedro, vrai numéro 9, peu importe. On va presser l'adversaire, on le pousse à la faute. On a plutôt des joueurs jeunes et remuants qui vont déséquilibrer la défense adverse dans les 30 derniers mètres. C'est là que ça va se jouer. Et surtout essayer de faire la différence dès la première mi-temps. Parce que derrière, on a des joueurs vieillissants et on n'a pas des latéraux qui peuvent apporter le
c'est quoi, et Ancelotti le reconnaît ça.
Alors c'est donc un quoi, un 4-2-4 avec
4-4-2.
4-4-2 ouais, 4-4-2.
Mais alors, 4-4-2.
Mais vu les profils des ailiers, c'est
ça va être Vinicius et Estevao sur les ailes. C'est Vinicius à gauche et Estevao à droite sur
alors,
les ailes.
Alors a priori devant, on va partir a priori.
Il y a Cunha devant.
Voilà, Cunha et Vinicius.
Ouais.
Sur les côtés, il y avait Rodrigo et Luis Enrique du Zénith, mais on a perdu Rodrigo qui est une énorme perte. Donc je sais pas comment ils vont un peu compenser.
Il y a Rafifi,
il y a Rafinha,
tout à fait.
Il y a Estevao aussi de
voilà,
Chelsea.
Voilà. Bon, et puis je rappelle que Ancelotti s'est toujours appuyé sur un énorme milieu de terrain, que ce soit au Milan ou au Real également.
Voilà.
Sa base, elle est là.
La base, elle va être dans le cœur du jeu, c'est-à-dire Casemiro, Guimarães, Paqueta. Paqueta pour une quand on s'appelle plus une impulsion vers l'avant.
Bon. Quand tu dis 4-4-2, il va jouer où Paqueta alors?
Paqueta, je pense qu'il est en doublette, il est en duel avec Guimarães à côté de Casemiro.
Okay. Dans le double pivot.
L'un ou l'autre.
Ouais. Double pivot. Bon,
tiens, tu parles du
canal. Globalement, moi, c'est ce que j'ai vu dans les dernières compos.
Ouais, ouais. Après, l'échantillon reste encore minime quand même. On n'a pas eu beaucoup de matchs. C'est pour ça que le rassemblement, il est très important pour le Brésil.
Bon, Neymar, faut qu'on en parle avant la pause, bien sûr. Il a été interrogé comme à chaque conférence de presse Ancelotti. Neymar, est-ce que vous comptez sur lui? Pourquoi il n'est pas là encore une fois? Il n'a jamais été appelé par Ancelotti depuis que l'Italien a pris la sélection en main. Ouais. Là, il a répondu. Simplement, j'observe tout, j'écoute tout et mon rôle est de prendre des décisions. Il a sûrement entendu les déclarations de Romario, très écouté au Brésil bien sûr, qui a dit cette semaine, la sélection est pour les meilleurs et les plus talentueux. Faites attention monsieur, un champion doit jouer.
Alors, le cas...
C'est un énorme débat et que dit le Brésil en fait par rapport
alors, à... Alors, le cas Neymar, il est très problématique du fait que, comment dire, quand on prend Neymar dans une équipe, que ce soit en club ou en sélection, on bâtit son équipe autour de Neymar. Or là, est-ce que Ancelotti va prendre le risque de bâtir une équipe autour de Neymar, à savoir qu'il n'est pas à 100%, et que je rappelle qu'en Coupe du Monde, c'est pas je rentre une demi-heure, je fais pas le match des coiffeurs, j'arrive... Non, c'est être à 100%, 90 minutes, voire 120 minutes sur toute une compétition. Est-ce que Neymar est dans cette position? Je ne crois pas. Je ne décide pas.
Bien sûr.
Sur
ah, ça
pourquoi
sait,
je
chérie,
parle des deux matchs de novembre.
Mais il ne le prendrait pas, tu penses, en joker?
Ah non, attends. Moi, sur les deux matchs de novembre, il n'a pas été appelé et il n'a pas été appelé sur les deux matchs qui vont.
Non, mais voilà, c'est compliqué. Question, vous le prendrez.
Moi, je ne sais pas.
Kevin.
En titulaire, pardon, juste deux secondes. Moi, ce que disait Chérif, pour moi, c'est impossible. Neymar, il ne peut pas faire ce que tu dis là, effectivement.
Il ne pouvait pas le faire sur la dernière Coupe du Monde en étant à son max parce que physiquement, ça avait été compliqué.
Ouais, déjà, mais là, c'est encore pire.
Il avait eu une blessure contre la Corée ou juste avant. Parce que déjà, il jouait à cloche-pied contre la Croatie, mais un but exceptionnel.
Mais bien sûr, non, mais la qualité du joueur, elle n'est pas en cause. Je veux dire, physiquement, il n'est pas capable de tenir, d'être le leader de l'équipe. Mais en revanche, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Ancelotti peut prendre le risque de prendre Neymar en super sub, tu vois?
Non, mais
alors, il sort du banc.
Est-ce que Neymar, lui, dans son ego, se dit qu'aujourd'hui
aller jouer faire... une dernière Coupe du Monde, je pense.
Non,
que...
mais pour faire une Coupe du Monde, je peux être ce joker-là.
Accepter ce rôle.
Accepter ce rôle.
De grand frère.
De grand frère.
Alors, moi, je viens de parler de la situation d'Ancelotti qui a priori ne l'a pas appelé. Il n'a pas entièrement fermé la porte parce qu'évidemment, il ne faut pas insulter l'avenir.
C'est un sujet très sensible au Brésil aussi.
À côté de ça, en contrepartie. Il y a la presse brésilienne qui est vachement influente. Pour le narratif, pour écrire les papiers, ils aimeraient bien qu'il y ait Neymar.
Mais oui, c'est, voilà.
Parce que là, le Brésil d'aujourd'hui, il n'a pas de star. Quelque part, tant mieux.
Attends, Vinicius,
quand même.
Oui, Vinicius. Vinicius a toujours déçu en équipe du Brésil.
Oui, ça, c'est sûr.
Oui, mais il a un statut de star, c'est ça qu'on veut dire, quoi.
Non, pas l'équipe du Brésil. Il a toujours déçu au Brésil.
Oui, mais chérif, demain tu fais une affiche pour la prochaine Coupe du Monde.
Je suis d'accord avec toi.
T'as 10 joueurs à mettre, tu mets Vinicius.
Oui,
c'est un très bon jeu, ça.
Après la pause, je suis d'accord avec toi. La réalité
de trouver des nouveaux jeux.
Non, mais par contre.
Changer concept en ce moment.
Non, mais c'est ça qui est super pour cette Coupe du Monde.
Il est dans la tête des nuages, là, sur Paris, là, en ce moment, Nico.
Vas-y, chérif.
Rafinha, super. Il aura sa place à gauche, pas de souci. Par contre, pour Vinicius a toujours déçu, mais systématiquement, Copa América et éliminatoire. C'est problématique.
C'est le Dembélé, quoi. Le Dembélé du Brésil, quoi.
Quelque part, on attend que Vinicius se révèle à la Coupe du Monde. Maintenant, pour en venir à Neymar, à côté de ça, il y a la presse, il y a aussi le grand public qui
aimerait voir Neymar. Mais il y sera. Moi, je pense que s'il enchaîne les matchs jusqu'à la Coupe du Monde sans
se révéler. Il reste 2 mois, Kevin.
Ouais, mais 2 mois, c'est bien. 2 mois, si tu arrives à faire 2 mois, il y sera. Numéro 10, capitaine.
Hein? Moi, je sais pas.
Kevin, tu sens en tout cas, c'est ce que je sais. Pas.
Hein?
C'est un souhait. C'est
Kevin. Ah, voilà. Kevin,
est-ce que Neymar est capable de rester sur le banc tel ou tel match?
C'est la grande question.
Moi, je pense que oui.
D'accord.
Mais il y a un truc que je comprends pas.
Et puis il y a aussi un truc pour Ancelotti, comme Deschamps ou d'autres ont pu le connaître, Deschamps avec Benzema notamment. Appeler un Neymar qui est une figure populaire médiatique immense au Brésil, c'est aussi gérer des rendez-vous médiatiques, c'est aussi gérer une pression, une effervescence autour de lui également.
Enfin, là, c'est pas les anges de la télé.
Tu veux la tranquillité. C'est une théorie qu'on a avec Benzema également. De quoi? Pour Ancelotti, c'est pas évident.
Mais non, ça n'a rien à voir.
De devoir gérer.
Ça n'a rien à voir.
Tant de questions. Ah, mais attends, tant d'attentes.
Et ils sont éliminés en 8e, il n'a pas pris Neymar. Ils se font éliminer en 8e, il n'a pas pris Neymar.
Enfin, s'ils se font éliminer en 8e et qu'il a pris Neymar, il sera défoncé.
C'est pas le problème. Oui.
Qu'il l'excuse. Aujourd'hui, on parle pas du Neymar du PSG ou du Barça. On parle quand même d'un Neymar qui est souffrant.
On parle d'un numéro 18, 19.
Depuis près de deux ans, il n'a pas un match plein.
Il a quelques matchs.
Attendez. On parle de Coupe du Monde. Alors, je vais prendre l'exemple.
T'avais les équipes à la Coupe du Monde. Ah, je suis pas sûr que le premier tour ce soit.
Kevin,
non, mais ce soit plus loin.
Kevin, regarde.
T'as le temps de te mettre dans la compétition.
Kevin, quand on prend Pogba à Monaco, on entend des histoires du genre, Pogba, il va revenir progressivement, 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là. Non, c'est la première, c'est la Ligue 1. La Ligue 1, c'est même 20 minutes, c'est 20 minutes intenses de gratter des ballons. De comment ça s'appelle, des courses à haute
intensité en championnat du Brésil quand même.
Ouais, il enchaîne pas trois matchs avec le Brésil. Bon, c'est le 16e brésilien
du monde.
Non mais juste Nico, juste pour répondre rapidement, parce qu'il y a un truc que je comprends pas moi chez Kevin, c'est qu'on l'a en émission tous les soirs et quand même Neymar, il te dit qu'il veut le mettre numéro 10 capitaine.
Son espoir, mais
d'accord, c'est péché mignon Neymar,
c'est un sentiment mental.
Tu as parlé d'un truc, Walid Acharchour, l'affect. Le sentiment d'affect, tu es un robot du. OK, mais sur d'autres
joueurs, tu as pas d'affect, tu es très très froid, tu es sur
c'est la subjectivité du football.
Neymar, c'est le seul. Ah ouais, d'accord. Neymar, c'est le seul. Et là, lui, il te dit le Brésil doit mettre son équipe autour de Neymar.
Tu vas bâtir ton équipe autour de Neymar.
On comprend plus.
Obligado.
Shérif, merci.
Mais lui, c'est le flunch. Il est au buffet à volonté, en fait. Quand il veut, c'est où il veut.
Éclairage Brésil. On va paraphraser Marc Ambrosiano, c'est pas un joueur, c'est une idée, Neymar.
Exactement. C'est une idée du football. Est-ce que tu gagnes avec des idées? Je suis pas sûr de ça.
Bien sûr que oui.
Pas avec cette idée-là.
On revient dans un instant pour la suite de Génération After. On va accueillir Edgar Grollo, notamment, correspondant dans le Dame en Espagne, qui était invité sur la croisière. Il va nous parler un peu de du Real, notamment. Restez avec nous, la suite de Génération After avec Jimmy, Kevin et Walid dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After en direct du bateau, la croisière des 20 ans de l'After. On est là, merci pour les applaudissements. On est ensemble jusqu'à 22h dans la foulée, l'After évidemment jusqu'à minuit, avec plein de surprises, plein d'archives également, d'ambiance. C'est la fête ici à Paris avec Kevin Diaz. Prends ton micro Kevin, Walid est là. Jimmy Brown est toujours là également. Elton Mokolo, mon frère de la Coupe d'Afrique des Nations, à Rabat. On était bien Elton, bonsoir.
Bonsoir à tous, salut Nico, c'est vrai qu'on en a vécu des choses du côté de Rabat.
Bah toi t'en as vécu, mais l'histoire s'est arrêtée assez vite finalement.
Et sinon ouais, la finale est extraordinaire, mais très content d'être là pour les 20 ans, ça fait quelque chose. Moi perso, l'After bah, c'est Créteil, c'est ma chambre 2006-2007, je crois la première émission.
T'as écouté la première?
Ouais, j'ai écouté 20 avril.
T'avais quel âge en 2006?
J'avais 13 ans. Non, j'allais sur mes 13 ans.
Fait, qu'est-ce que c'est 4 avril du Walid? C'est 4 avril 2006. Non, parce que 20 avril, non, c'est pas 20 avril.
4 avril.
Non,
ouais, mais c'est 4 avril.
Ouais. Non, commence pas.
Et ensuite, la deuxième émission, je m'en rappelle totalement, c'est Manchester United, Lyon. Et Daniel, il défonce Ben Arfa, il défonce Benzema. Ouais, je sais pas où il est, Daniel, mais.
Benzema, au passage. Ouais. C'est l'aller ou le retour?
C'est match retour. Match retour,
l'aller qui but. Mais je me suis refait le retour de Benzema à Old Trafford. C'est exceptionnel.
Ça, on parlera de Benzema le... un deuxième
ouais, là, mais c'est exceptionnel. Bon. Le niveau de jeu, c'est exceptionnel.
Je vais accueillir également notre drôle dame espagnole. Edgar Grollo est avec nous. Salut Edgar.
Salut Nico, salut tout le monde.
Eddie Jackpot, comme on t'appelle, comme Daniel t'appelle.
Oui. Tout le monde m'appelle comme ça maintenant.
Bon, ça va?
Ça va, écoute, ça va très
bien. De retrouver la civilisation.
Non, mais j'ai vraiment quitté 20 degrés, grand soleil pour la scène avec de la pluie qui tombe sur l'eau qui est déjà là. Quoi.
Il va se plaindre celui-là, mais c'est incroyable.
Mais c'est très sympa.
Il va se plaindre. T'as écouté ton Kylian? Tu appelles Kylian,
j'ai écouté un petit peu, ouais.
T'en penses quoi alors?
Écoute, j'ai pas.
Tu l'as trouvé comment, même sur la forme?
Non, mais j'ai vu notamment sa citation sur les deux jambes, les deux genoux qui m'a fait rire. Maintenant, j'ai pas entendu toute la conférence de presse, mais ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, il avait tout préparé, tout bien discuté, vu comment il allait parler de tout ça. Et ce qui est intéressant, ça a été de voir la réaction des médias espagnols parce que.
Alors justement.
Non, mais t'en as certains. Par exemple, je vais vous dire, je recevais les notifications sur mon téléphone. T'en avais un qui sortait la citation sur les deux genoux, qui sous-entendait donc
Daniel, c'est ça.
Et l'autre qui sortait plutôt que Mbappé avait dit qu'il avait été parfaitement traité par son club sur son genou. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Chacun.
Il y a des enjeux politiques.
Ils arrangent aussi.
Bon, comment l'Espagne a traité cette affaire justement là et traite aujourd'hui la forme de Mbappé et son absence avec le Real?
Écoute, j'ai envie de dire, ils l'ont traité complètement à l'inverse de nous, c'est-à-dire complètement dans l'autre sens. Et c'est marrant parce qu'un journaliste espagnol m'avait posé exactement la même question, il voulait savoir comment on traitait ça en France. Et en fait, en France, on a traité ça sous l'angle de la Coupe du Monde en se disant absolument, c'est une évidence, la Coupe du Monde, faut que ce soit la priorité pour lui et il n'y a rien de plus important qu'une Coupe du Monde. Et à Madrid, tout le monde se disait, non mais attendez, comment c'est possible que la Coupe du Monde soit la priorité? C'est le Real Madrid qui le paye toute l'année. Le Real est en crise et lui, il est à Paris avec Esther Exposito et en train de faire du bowling. Comment c'est possible? Sachant qu'en France, nous, on voyait la chose complètement à l'inverse de ça. Donc c'était très intéressant de voir les deux. Et je pense qu'au final, c'est quelque chose de très récurrent qu'on avait déjà vu, par exemple, entre le Barça et la Fédé espagnole, d'intérêt de la Fédé, de la sélection et d'intérêt des clubs qui, avec les calendriers, les enjeux économiques aujourd'hui, sont souvent en contradiction et ça pose de plus en plus souvent des problèmes. Et je pense surtout qu'il y a à chaque fois, ce qui rejoint et ce qui fait le lien entre toutes ces histoires, c'est les problèmes de communication. Et c'est quand les supporters ne comprennent pas ce qui se passe qu'il y a ce genre de polémique.
Bon, question encore. Est-ce que la perception de Mbappé a changé depuis son absence justement? Des socios du Real, des médias espagnols également. On a vu Chiringuito notamment qui commençait à dire, à analyser l'absence de Mbappé, quelles conséquences sur l'équipe, qui gagne sans lui. On en parlait tout à l'heure, une question lui a été posée en conférence de presse. Est-ce que la statue s'est un petit peu effritée ou pas du tout?
Ouais, déjà parce que ça vous aura pas échappé, mais le Chiringuito notamment qui pèse énormément, eux ils l'ont déglingué, dégommé. C'est le présentateur star qui
sur
l'a
ses
fait.
20 minutes de jeu le week-end dernier.
Et
c'est ça.
Sur un moment,
tu penses que c'est justifié?
Je pense que le soir où il l'a fait, c'était pas forcément justifié. Est-ce que on peut dire, parce que j'étais au stade sur ce match-là, est-ce que Kylian Mbappé a couru plus que les autres? Non. Est-ce qu'il a couru un petit peu moins que les autres? Oui, mais c'est Kylian Mbappé et c'est toujours le cas. Est-ce qu'il a moins couru que sur d'autres matchs? Non, pas du tout.
Après, ils sont pas particulièrement connus pour être dans la mesure, dans les sorties et
ouais,
tout,
mais
pour pas prendre ça.
Je veux dire, s'il voulait l'éclater, il aurait pu l'éclater à n'importe quel autre moment de la saison où il a eu des matchs largement pires que celui-là. Par contre, ce qui a changé, c'est que pendant plusieurs semaines, on a vu une équipe du Real où tout le monde courait ou presque. On a vu une équipe du Real où tout le monde faisait des efforts, où tu faisais jouer des jeunes du centre de formation qui se donnaient à fond. Tu faisais jouer moins de stars, mais tu jouais beaucoup mieux. Et donc en fait, le genre de comportement qu'il y avait avant, bah quand tu fais la même chose maintenant et que tu t'appelles Kylian Mbappé, ça passe plus.
Mais il va devoir changer ou pas?
En fait, quand il est parti, il était blessé, c'était la star et le seul qui jouait bien, et il est revenu de blessure et d'un coup c'était
il l'a dit en
le gars
de
sans qui.
Et il a été très bon en conférence de presse dans sa réponse, notamment sur l'après Supercoupe et l'après Real Manchester City et la différence des analyses. Moi, ce qui m'intéresse surtout, parce que tu parlais du Chiringuito, on sait que c'est des canaux qui sont quand même très très importants, qui sont aussi très très proches de certaines personnes au club. Et c'est intéressant de voir comment Kylian Mbappé va être traité sur les prochaines semaines. Et moi, j'ai trouvé le timing désastreux du Chiringuito, parce que je trouve que s'il y a des performances à critiquer d'Mbappé, c'était pas ce soir-là.
Ou alors c'est commandé.
C'est une possibilité, je dis pas ça, je dis juste que ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir parce que Mbappé utilise ses canaux aussi en France, que Mbappé a parlé notamment dans son événement là il y a 2-3 jours en critiquant un petit peu le Real, en tout cas en sous-entendant qu'il y a eu des problèmes mais qu'il voulait pas rentrer dans les détails et parler de ça à la fin de la saison. Et moi je trouve qu'en fait Mbappé, c'est intéressant parce que il a un peu le cul entre deux chaises avec l'équipe de France et avec le Real Madrid. Et aujourd'hui, c'est la star de l'équipe de France et c'est la star du Real Madrid. Et il va pas pouvoir gagner partout, en fait, Kylian Mbappé, parce que il y a des traitements de sa part sur le cas équipe de France ou le cas Real Madrid qui peuvent être contradictoires. Et quand on sait qu'au Real, il a énormément de pression par rapport à la Ligue des Champions qu'il doit ramener,
et qu'ils ont gagné sans lui. Et il y a aussi énormément de pression pour lui du côté de l'équipe de France parce qu'il peut marquer l'histoire de la Coupe du Monde à tout jamais. Et quand on regarde sa gestion un peu de sa saison en termes de communication et même en termes de gestion de son corps, l'histoire à Bakou, l'histoire à Dubaï où pendant une semaine il va à Dubaï alors que trois semaines avant il va à Almaty mettre un triplé dans un match qui vaut rien. Quand tu vois que aujourd'hui bah il y a tout cet imbroglio avec blessé pas blessé, genou pas genou, et que finalement il vient en équipe de France oui. pour aller à Boston parce que en termes de marketing c'est aussi très important. Il y a un moment où en fait Mbappé il va générer de la frustration.
T'as peur qu'il y ait trop d'enjeux autour de lui.
Non mais en fait il va générer de la frustration soit chez les Français soit chez les Espagnols.
C'est pas grave, ça oui, glisse sur lui.
Oui mais le gros
la
problème
la réponse il apporte toujours sur le terrain
gros,
Mbappé.
Oui mais le gros problème c'est, le problème nous, c'est qu'avec ces agissements là et bien évidemment que le terrain parlera à la fin, mais il y a un enjeu sportif, il y a un enjeu médiatique, il y a une pression démesurée sur Mbappé. Et ce qui va se passer contre le Bayern, s'il joue avec l'équipe de France contre le Brésil, s'il est pas bon, on parlera de sa gestion aussi, parce que il a quand même envoyé un signal sur l'état médical sur l'aspect médical au Real Madrid en envoyant
quand même sur la compétence
du staff médical. Voilà, sur la compétence.
Non, là, il vient de dire le contraire ce soir.
Oui, bien sûr, mais on va quand même prendre la base. Si dans 10 jours il a joué deux matchs avec la France contre le Brésil et contre la Colombie, ou en tout cas un match, et qu'il n'arrive pas en forme contre le Bayern et qu'il se vautre contre le Bayern, si on rajoute à ça l'aspect sportif où ils ont réussi à être meilleurs,
c'est la vie de Mbappé.
Bah, je trouve que Mbappé, en fait, en voulant aller de partout, en voulant essayer un petit peu de ménager parfois, etc., et en fait, il a tout à perdre, en fait, dans cette fin de saison. Et que surtout, il ne pourra pas gagner partout.
Ah, oh, ça, on ne sait pas. Bon, allez, on fait une pause.
Et s'il le fait, je trouve que le challenge, il est.
Faut qu'on fasse une pause, parce qu'on a la bourre. Elton, je suis sûr, tu vas parler dans cette émission. Je ne t'ai pas encore lancé. Tu vas faire la deuxième heure avec nous de Génération After. T'as bien t'analyse. Là, je synthétise. Et t'apportes ton sel ensuite. On fait une pause. On vient dans un instant pour la deuxième heure de Génération After. En direct du bateau des 20 ans de l'After. A tout de suite sur RMC.